Je vous propose de reprendre. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Luc Steinmetz. Alors, je sais que certaines d'entre vous sont en train de lire le Spleen de Paris, puisque je parle beaucoup du Spleen de Paris dans l'édition qu'il a procurée, qui est celle du livre de poche. Je n'ai pas recommandé particulièrement d'édition lors du premier cours, mais j'ai dit que il y a une édition du Spleen de Paris dans toutes les bonnes collections de poche, et comme elles ont toutes été faites par des amis, je ne peux pas recommander tel ou tel. Mais je sais que certains sont en train de le lire avec Jean-Luc Steinmetz. Donc Jean-Luc Steinmetz a été professeur à l'Université de Nantes. Il a procuré récemment une nouvelle édition de la Pléiade de Lautréamont. Il a publié les œuvres complètes de Rimbaud dans la collection GF. Il travaille actuellement à une édition de la Pléiade des œuvres de Jules Verne. Il est l'auteur de biographies importantes, une biographie de Mallarmé, récemment une autre biographie dont je sais que nous avons un article à critique, mais j'ai oublié de
Tristan Corbière,
qui a été publié l'année dernière. Il a publié donc de nombreux livres sur la poésie, et sa spécialité va donc du second romantisme jusqu'au symbolisme, jusqu'au surréalisme. Il vient enfin de publier un recueil intitulé « Reconnaissance » chez Cécile Defaux, un recueil d'articles sur Baudelaire, Mallarmé, Nerval, Laforgue. Donc c'est vraiment l'un des tout premiers spécialistes, non seulement de Baudelaire, mais de toute cette poésie de la seconde moitié du XIXe siècle. Et aujourd'hui, son titre est « La temporalité dans l'œuvre de Baudelaire ».
Merci Antoine Compagnon de m'accueillir dans ce lieu prestigieux. Et je suis ému de succéder à tout ce que vous avez pu dire aujourd'hui, qui m'a particulièrement intéressé. Propos de Baudelaire et de Joseph de Maistre. La temporalité chez Baudelaire suppose l'expérience vécue, ce qui s'en reporte dans le poème et ce que le poème lui-même crée en tant que tempo et que rythme. Il ne sera évidemment pas question pour moi d'envisager toutes les réflexions auxquelles donne lieu un tel sujet, ni d'en reconstruire un éventuel corps de doctrine, mais d'aborder un certain nombre de questions essentielles, les unes ordinaires, les autres inhabituelles. Donc je vais aller vers l'inhabituel et j'espère le nouveau à la fin de mon exposé. Quiconque lit les Fleurs du Mal sait que le temps y fait figure d'ennemi qui soustrait impitoyablement les jours de notre vie. C'est ainsi que le présente la 10e pièce des Fleurs du Mal de 1861, allégorie anthropophage qui mange la vie, ronge le cœur et se fortifie de notre sang. Ailleurs, un fantôme, le poème « Un fantôme », le montre comme un noir assassin. Dans l'horloge, il apparaît comme un joueur avide. Le goût du néant le dépeint engloutissant le poète minute après minute. On le retrouve encore, ennemi vigilant et funeste, dans le poème final, où il est présenté en outre sous l'aspect d'un rétière infâme qui nous prend dans ses filets. Aussi Baudelaire, dans le Spleen de Paris, n'aura-t-il d'autre préoccupation que de le tuer, en jouant, bien entendu, de l'expression courante « tuer le temps » et en la rendant figurative. Le poète du galant tireur feint de le viser dans un tir forain où, en apparence, il s'ingénie à viser une poupée. Que le temps soit hostile à l'homme, la poésie antérieure l'avait abondamment montré depuis l'Antiquité et le Tempus Edax d'Horace. Celui que décrit Baudelaire suppose surtout la lente agression de l'ennui, allégorisée dès l'adresse au lecteur comme le monstre intégral. La vie, en son déroulement, en sa stagnation, se confond avec cet ennui qui confronte à l'inutilité de l'existence et adresse une leçon de néant. C'est le spleen, dont le mot apparaît dès le XVIIIe siècle pour caractériser une véritable maladie qui attaque le corps et l'esprit. Dans la première partie de son livre, Baudelaire lui réserve une place majeure avec l'idéal auquel il semble lié irréversiblement. Sur ce spleen, plus particulièrement, il produit quatre variations où s'exprime la première personne, les pièces 75 à 78. Le spleen correspond assurément à une façon d'être qu'impose le monde moderne. Cet état, cette souffrance de l'être prennent naissance à côté des activités urbaines ressenties comme vaines. Lui-même refuse de s'adapter à cet affairement. À ce marasme, il songe alors à opposer plusieurs remèdes, quelques échappées, l'enivrement de vin, de poésie, de vertu, l'extase de la volupté, l'enlèvement ou l'élévation par l'art. Attentif au présent, Baudelaire n'en est pas moins marqué par le passé et l'enfance. Il existe chez lui une étonnante prégnance du souvenir. Ce souvenir renvoie à une expérience individuelle souvent génératrice de regrets. Il peut aussi valoir comme instance métaphysique. L'un des spleens assure « j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans ». Il arrive donc à Baudelaire de se tourner soit vers son enfance, soit vers l'évocation des minutes heureuses. Malgré la discrétion apparente qu'il observe au sujet de tout élément biographique, il aime rappeler le vert paradis des amours enfantines et Mariette, la servante au grand cœur, à laquelle il n'hésitera pas plus tard à adresser de ferventes prières comme à Pau et à Dieu. Cette évocation induit une réflexion pré-analytique qui renvoie à ce qu'il nomme le mundus muliebris, l'univers féminin. Tout porté qu'il soit vers l'instant et son suspens, on le voit ainsi tiré en arrière par des images ou des scènes qui prennent une proportion mythique. C'est la jeune géante de la vie antérieure où se mêlent des images de l'enfance individuelle et de l'enfance de l'humanité. Une partie de Baudelaire vit à l'heure du souvenir un des mots clés de son œuvre, voire de Albert Thibaudet. Il a porté pour douloureux trophée ce qu'on pourrait appeler une épaisseur de souvenir telle qu'il paraît vivre dans une paramnésie continuelle. La femme, par exemple, pour lui est un lieu de présence, mais cette présence favorise un rappel, comme si elle contenait en elle une époque passée, ou convoquait de plus subtiles réminiscences ces analogies dont Proust parle dans Le temps retrouvé. Le mythe originel, si évident, si banal, de la femme et de l'enfance, l'enfance qui ramène à la femme, tout cela confondu dans le souvenir. Il faut aussi bien l'admettre que le tempérer. En cet équivoque, Baudelaire apparaît moderne, placé sur le fil de contradictions pas nécessairement solubles. Il n'hésite pas à dessiner différentes formes d'Éden. Ce sera plus tard également la position de Mallarmé, disant à René Gill « on ne peut se passer d'Éden ». Et il parle, je cite les notes nouvelles, n'est-ce pas, sur Pau, d'une nature exilée dans l'imparfait et qui voudrait s'emparer immédiatement sur cette terre même d'un paradis révélé. On a on attribue couramment cette citation à Baudelaire. Or, c'est Baudelaire qui traduit Pau à ce moment-là et sans dire qu'il traduit Pau. Comme très souvent à propos de Thomas de Quincey, il se sert de Thomas de Quincey, des expressions mêmes. Et il faudrait d'ailleurs parler du mot de bain de multitude, il faut que je vérifie si ce n'est pas de Thomas de Quincey. Bon, ça, il faut revoir le texte. Oui. Dans le cinquième poème des Fleurs du Mal, Baudelaire écrit « J'aime le souvenir de ces époques nues », en désignant ainsi celle de l'Antiquité et de la mythologie. Cette époque diffère de celle du vert paradis, mais toutes deux, placées à l'échelle de l'humanité ou à l'échelle individuelle, coïncident avec ce qu'il nommera les minutes heureuses. Sans céder à un regret romantique surfacé, il laisse entrevoir la complétude que supposent ces moments d'autrefois en état de correspondance et d'harmonie, si on les compare au monde moderne, hostile et désaccordé. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une conscience aiguë de l'ère contemporaine où il lui faut vivre et à l'unisson de laquelle doit être sa poésie. Car le poète, en toute lucidité, ne peut plus exprimer une vision d'autrefois. La présentation que donne Baudelaire de Théodore de Banville pour les poètes français d'Eugène Crépé signale bien que celui-là, Théodore de Banville, fut le dernier capable de montrer des scènes heureuses et idylliques à un monde antique, ignorant la réalité du péché et dénué du souci de la faute. Quoique Baudelaire conçoive bien la substance de ses bonheurs passés, il se refuse à les décrire. Il s'adonne peu au regret que choisit d'habitude le romantisme et témoigne pour sa part d'une mélancolie très spéciale, la partie mélancolique et ardente du siècle, comme il est dit à propos de la croix, qui sait capter la partie mélancolique et ardente du siècle. Il était bon, je crois, d'insister sur ce Baudelaire ayant maille à partir avec le passé, le sien et celui de l'humanité, qui renvoie autant à ce qu'il appelle la sainte jeunesse qu'à ses années d'enfance qui, pour lui, toutefois, furent douloureuses. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage. À plusieurs reprises, il s'est plu à reconstituer cette période que dans le poème « La voix », qui n'est pas dans les Fleurs du Mal, il a situé, non loin d'un lieu privilégié, la bibliothèque. Le mythe que met en place « Bénédiction », titre choisi par Antiphrase, présente le poète subissant les fatalités génétiques et produisant bon gré mal gré l'œuvre sacrificielle. C'est un des premiers poèmes Les Fleurs du Mal, comme vous le savez. La plus importante figure identitaire pour Baudelaire demeure, à côté du bohémien et du dandy, celle de l'enfant. On méconnaît l'importance qu'elle eut pour lui, car on place sous cette lumière Rimbaud avant tout autre. Or, Baudelaire reconnaît l'enfant au vaste appétit. À cet amateur de joujoux qui cherche à détruire pour voir s'ils ont une âme, ces joujoux, donc, il attribue une forme de sensibilité première qui n'est pas loin de comparer à celle de la poésie. Attitude ambiguë, certes, que celle qui consiste à vanter cette naïveté alors qu'il s'en prend aux illusions enfantines de Rousseau et que, dans l'évocation ou le gâteau, nous avons vu tout à l'heure, il expose la cruauté primaire de jeunes garçons s'affrontant. Mais dans ces paradis artificiels, il se souvient des remarques de Thomas de Quincey et reconnaît à l'enfant une façon unique de saisir le monde, la plus juste et la plus proche de la poésie. L'artiste sera donc celui qui, plus tard, par des moyens appropriés, une technique, voire une virilité, c'est son mot, une virilité symbolique, sera le mieux à même de reformuler et de communiquer les sensations perçues par l'enfant selon leur plus grande fraîcheur. Frontalier, limitrophe, l'art se serait donc construit entre l'enfance et l'âge adulte, entre un temps à peu près édénique et une société profondément marquée par d'ineffaçables désaccords. La temporalité de Baudelaire est amenée à se mesurer au temps de l'histoire et au temps de la métaphysique. Assez vite, comme on sait, il s'est estimé dépolitiqué, mais sa constante attention pour la misère sociale signale le regard qu'il portait sans complaisance sur le présent. De tous les poètes de son époque, y compris les plus politiques comme Auguste Barbier, il aura sans doute été le plus sensible aux contradictions que manifeste la vie quotidienne, quitte à extraire de cet état de fait une réflexion déplaisante apte à en dénoncer le caractère insoluble. Constamment, Baudelaire est interpellé par une réalité historique qui se développe autour du poète et qu'anime de grands courants moteurs, celui du consensus social, que signifie la démocratie, où se perd l'individu, et celui d'une idée de progrès que répand, par exemple, un journal socialisant comme Le Siècle. Assujetti à ce double raisonnement, l'individu doit sauvegarder son temps propre, qui se développe sur le fond d'une multitude, à laquelle il accorde la curiosité critique du flâneur, concédant à l'environnement de la foule, mais placé dans un angle, à distance, comme le personnage narrateur du Fascinocane de Balzac. Le temps personnel de l'individu, son endurance, qu'il exprime dans l'examen de minuit et le confiteur de l'artiste, s'oppose, en tant qu'originaux, au mouvement unitaire de la masse et du multiple. Le temps érosif pourrait être une menace abstraite que concrétise l'allégorie, comme la mort il porte la faux. Très évident, en revanche, les différents personnages sociaux qui veulent s'emparer plus ou moins consciemment du temps imparti au poète et réduire son art à une utilité. Devant ces captations diverses, Baudelaire ne cesse de suggérer des évasions possibles. Toute réplique aux attaques des minutes, des secondes. C'est donc à un surplus d'être qu'il convoque, et ce par divers moyens, opérations ou pratiques anti-utilitaires, procurant la jouissance personnelle, raffinant l'individualisme critique du dandy, pour secouer l'horrible fardeau du temps qui brise les épaules, il nous invite à nous enivrer de quoi que ce soit, de vin, de poésie, de vertu. Tout enfant, assure-t-il, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie. Il est intéressant de voir en quoi consiste l'extatique, le saut, par rapport à l'écoulement temporel lent, atone, voire poisseux, pour utiliser un adjectif cher à Sartre. L'érotisme, nommé sous d'autres termes, spécialement celui de volupté, règne pour partie dans les fleurs du mal. La censure de l'époque en a retenu l'extrême liberté, confinant au scandale. Cet érotisme met en rapport avec différents infinis. Les femmes damnées le portent en elles. Il adresse à un sentiment d'être extensible. En certaines occasions, il renvoie à l'enfance, ou bien à un souvenir vague, royal et lourd de tour, comme celui que montre l'amour du mensonge. La jouissance est à l'horizon de telles mises en scène. Elle laisse place à l'instant, capable dès lors d'accueillir dans sa brièveté une forme d'éternité. Une autre expérience que Baudelaire oppose au temps ordinaire est celle qui se tourne vers la face obscure de la vie. Inspiré par Poe, par De Quincey et les rêveries de l'opium, nous le voyons fréquemment mentionner le rêve, bien que pour notre déception, il ne livre à ce propos que quelques commentaires. Dans le reniement de Saint-Pierre, il rappelle toute la distance qui sépare l'action du rêve dont il soupçonne les étrangetés quand il distingue nettement dans cette activité psychique deux formes, le rêve ordinaire, inspiré par les éléments de la veille, et le rêve hiéroglyphique. Il laissera néanmoins en suspens le projet d'Onirokriti qui devait constituer l'une des parties du spleen de Paris. L'intérêt que manifeste Baudelaire à propos des stupéfiants signale comment il entendait échapper au temps, même artificiellement, sans que sur cette opération veille sa volonté. Mais vous savez à quel point la volonté est importante pour Baudelaire. Dans le poème, en prose, La chambre double, on remarque en un coin, à côté de la femme érotique, la fiole de laudanum, terrible ami. Le vin, qui n'est pas conçu par lui comme un paradis artificiel, mais aussi le haschich et l'opium, qui ont, eux, le son, entr'ouvre dans la vie courante des issues favorables par lesquelles échapper à la gueule de Cronos et atteindre une autre durée, celle où mène par la volonté de l'auteur la poésie et les autres arts. Selon les produits assimilés, le temps va prendre diverses formes, lenteur ou célérité, moment surnaturel, qui, surtout dans le cas de l'opium, offrent une large place au souvenir et même à une remémoration infratemporelle, et dans le cas du haschich, stimule une transformation de la perception, rires enfantins et plages d'éternité, où serait perceptible le paradisiaque, celui que promettait à ses affidés le vieux de la montagne. Par rétroversion, Baudelaire, pensant au rêve, notera d'ailleurs dans l'invitation au voyage en prose, chaque homme porte en lui sa dose d'opium naturel. La poésie, bien entendu, et toute forme d'art, assurent aussi magistralement cette sortie du temps convoité, une sorte d'exaltation qui ménage un accès à l'infini, mais que cet infini dépasse. En tant qu'actuelle et critique, elle participe cependant à la notion de modernité qui inclut le provisoire, tout en concevant le fond d'éternel sur lequel se développent les actions humaines. La poésie de Baudelaire suppose donc une perte sensible, une déperdition, qui n'en donne pas moins lieu à une sublimation possible. Visant au recueillement, d'un de ses titres, vous le savez, elle s'inscrit dans un autre temps, celui de ses formes, de ses rythmes, de sa prosodie, et en cela accomplit une sublimation, fût-ce de l'ignoble. Elle touche ainsi à l'idéal, même si elle ne peut échapper à la bouffonnerie et à l'opportunité contemporaine, voire à une désintégration obsédante. Évidemment, là, on vous a parlé, Antoine Compagnon vous a parlé de ce nouveau moment sacrificiel où Rimbaud ou Baudelaire fait le sacrifice de la poésie, n'est-ce pas, du spleen de Paris. Dans le spleen de Paris, Baudelaire fait consciemment et sans exaltation le sacrifice de la poésie lyrique. Et donc, il tient compte de cet autre temps actuel, ce temps actuel dans lequel il est. Impossible, en effet, d'évacuer l'intrigante modernité baudelairienne qui est un tenir compte harassant, harcelant, culpabilisant de l'heure actuelle. Elle est pour Baudelaire le lieu de contradiction si grande qu'il semble vain de vouloir en activer la relève au sens hegelien du terme. Liée au présent, à la mode, elle tente toutefois d'en dépasser le caractère éphémère et la caducité programmée. La perception du temps par Baudelaire a produit cette notion autant esthétique que morale. Les fleurs du mal incluent tout à la fois les œuvres d'art éternelles et contemporaines, placées sous le jour d'une beauté reconnaissable, mais variable, dont seule l'adaptation au présent permet de capter l'élément décisif. Elle se révèle donc bizarre, instable, cette beauté, bizarre, instable, plutôt que définitive et marmoréenne. Pour un peintre comme Constantin Guise, la modernité implique une relation constante au présent, ainsi qu'un curieux oubli de soi qui transforme l'artiste en homme des foules, sensible aux multiples rencontres que ménage l'espace urbain. En réalité, ce qu'il cherche et ce que cherche Baudelaire, écrasé par le fardeau du temps ordinaire, c'est le surgissement, plus ou moins épiphanique, du nouveau. Sur ce mot s'achève le voyage, et Baudelaire, en 1861, citant Wagner, le texte de Wagner, se plaît à rappeler « la découverte du nouveau se faisant sur le fond de mécontentement qu'éprouve un individu pour tout ce qui existe. » C'est de Wagner, mais Baudelaire le reprend à son compte. « La découverte du nouveau se faisant sur le fond de mécontentement qu'éprouve un individu pour tout ce qui existe. » Concevons ici ce qu'est le dandy, se faisant œuvre d'art pour lui-même, et soleil couchant d'un siècle, savourant sa décadence. Nous voici parvenus au confluent de trois plages temporelles évidentes, passé, présent, futur, que confond, il va de soi, l'éternité, et dont le terme de modernité fait bouger les frontières ou les airs. L'analyse de Baudelaire concernant le monde contemporain conclut à une sensible dégradation. Il n'y a pas de mieux dans les arts. L'artiste ne relève que de lui-même. En cela, il s'oppose au progrès cher à son époque et pareillement, il dénonce le ridicule espoir de revenir à des valeurs anciennes, à l'école païenne et aux diverses utopies réconciliatrices comme celle de Fourier. Il n'est pas question pour lui de rétablir par l'artifice de la fiction une sphère harmonieuse ou harmonique. À l'artiste d'aujourd'hui, au poète actuel, incombe le devoir d'observer, sans tenter de combler l'hiatus sensible entre l'idéal et le contemporain. Le péché originel, redécouvert assez tard par lui, explique métaphysiquement une rupture qui, à la différence de la séparation d'avec la mère, nous sépare et nous exile d'un principe sur lequel il hésite à se prononcer. Il penche du côté de Satan, de la discrépance du diabolique qui ne saurait certes se concevoir sans un ciel antérieur où fleurit la beauté. Il se voue sans illusion, mais par une spéciale charité, car il y a une grande charité de ce poète, par une spéciale charité, poésie et charité, vous avez lu ça tout à l'heure, donc il se voue par une spéciale charité à être un détecteur de l'actuel que reflète la mode et qu'exprime, forte de toutes les dégradations accentuées qu'elle cultive, la caricature. Sans méconnaître un ordre ancien, la poésie, l'art, manifeste un écart incontractable, ce qui, bien entendu, engendre une mélancolie qui renvoie à l'exil de l'Éden, dont le Satan de Milton figure l'image la plus dramatique. Ici, l'histoire de l'individu et l'histoire de l'humanité coïncident. La mélancolie, dans ce cas, serait spécialement moderne. Et la figure de la mélancolie, c'est la figure du Satan miltonien, exilé. Le plus souvent, l'existence se déroule sur fond de déréliction, subit l'écrasante pesée du temps. Il n'y a, précise Baudelaire, que deux moyens pour échapper à ce cauchemar, je le cite, pour l'oublier, le plaisir et le travail. Or, le plaisir nous use, je continue à citer Baudelaire, le travail nous fortifie. Choisissez. Tel est le conseil, oui, ce n'est pas M. Sarkozy qui est ici, c'est Baudelaire. Tel est le conseil que l'on peut lire dans les fusées. C'est un conseil tardif, donc. Mais il faut tenir compte de l'évolution de Baudelaire. Encore convient-il de signaler que nous avons affaire donc à une remarque tardive. Baudelaire a-t-il toujours refusé le plaisir et sa fatale usure au profit du travail tout particulier qui se confond avec la pratique de l'art? Évidemment, c'est ça qu'il a en tête, le travail acharné, n'est-ce pas, de Wagner, le travail de Delacroix, etc. Ce travail baudelairien, ce négotium par rapport à l'otium, ce travail baudelairien, ce négotium, est entièrement marqué par le paradoxe, bien sûr. Non ou peu rétribué, il conduit à une forme de dépense au cours de laquelle ont des chances de se révéler l'infini ou l'éternité. Mais cette démarche se complique assurément à ses yeux de toutes les occupations alimentaires auxquelles il ne peut se dérober. Faisant entrevoir à sa mère une certaine rentabilité de ses publications dans les revues et de ses traductions en volume, il pourra signaler aussi avec ironie, dans ses conseils aux jeunes littérateurs, « La poésie est un art, est un des arts qui rapporte le plus, mais c'est une espèce de placement dont on ne touche que tard les intérêts. En revanche, très gros. » Il écrit ça tôt, 1851. La temporalité baudelairienne coïncide donc avec une certaine forme de vécu au sein de laquelle s'est développée l'œuvre selon des points germinatifs variables. Durée et marasme du spleen. Exaltation amoureuse, les heures de la présidente. Enlèvement spirituel. Enlèvement au sens fort du terme, c'est un mot proprement baudelairien. Enlèvement spirituel que provoque l'exercice de l'art ou la façon dont on en jouit, l'œuvre d'art étant l'objectif définitif pour le plaisir qu'on en reçoit ou le don que l'on en fait. C'est ce moment-là qui, par excellence, en dehors de l'érotisme, de la volupté, des rêves et des hallucinations provoquées, permet de traverser le temps ou de le remoduler à notre guise. On lit ainsi dans le peintre de la vie moderne « Toute notre originalité vient de l'estampille que le temps, le mot est souligné, toute notre originalité vient de l'estampille que le temps imprime à nos sensations. » Et certes, à cet endroit, il faut entendre non pas un temps dévorateur et meurtrier, alors, mais un temps dispensateur d'impressions multiples. Retenir aussi le mot estampille, autrement dit signature. On rappellera Proust en ce passage. Une heure n'est pas qu'une heure, c'est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climat. Le mot climat est splendide, n'est-ce pas ? Mais hérité très certainement de Baudelaire. Si l'on y réfléchit davantage, on en déduit que l'œuvre d'art accueille des sensations reformulées est quasi dédouané de la mort, bien qu'il scintille les moires de la finitude. Ce qui est restitué et recomposé consonne avec l'enfance, ou une enfance, celle aussi bien de l'individu que de l'humanité. Ce qu'enfant l'on percevait venait à nous selon la fraîcheur du nouveau et d'une naïveté. Sur ce nouveau antérieur, Baudelaire prend modèle, ou à propos de lui, espère, allant jusqu'à parler d'une barbarie, le terme est souligné là, et le mot est positif dans le texte de Baudelaire, d'une barbarie, mais c'est pas le bon sauvage de Rousseau, c'est autre chose. C'est le dandy du Nouveau Monde, c'est-à-dire les Indiens que Chateaubriand a pu connaître, qui considère comme le premier modèle des dandys, n'est-ce pas ? Baudelaire prend quand je parle de ce nouveau antérieur, Baudelaire prend modèle et à propos de lui, espère, allant jusqu'à parler d'une barbarie, d'un art synthétique et abréviateur, et à nommer les Indiens, donc, ces dandys du Nouveau Monde, le nouveau, initiateur de la surprise, produit au sein de la répétition des formes et des usages, un saut, interrompant la progression inexorable du temps. La surprise est d'autant plus forte qu'elle est gratuite apparemment, uniquement esthétique. Elle apparaît comme un surplus à l'opposé du progrès, soucieux d'un bénéfice ultérieur. Elle est le fait d'un héroïsme justifiant l'hypothèse d'une épopée actuelle, inévitablement fragmentée, mais appliquée à donner au présent sa légende. Oui, il faut trouver au présent sa légende. Cette légende du présent ne pourra être saisie que par l'apparition d'un certain nouveau, qui bien sûr est voué à la caducité. Mais enfin, il faut donner au présent sa légende. Bien entendu, par ailleurs, l'épopée est tout à fait impossible. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'une épopée fragmentée. Baudelaire, critiquant l'américanisme qui a condamné Poe, en stigmatise l'économie restreinte. Le contraire, à parler dans des termes qui s'inspirent de la pensée de Bataille et des ethnologues, du potlatch primitif. Reste à percevoir ce qui, dans ces dépenses ouvertes de l'art, revient à l'éternel. En réalité, c'est sur ce fond d'immémorial qui repousse, l'immémorial qui repousse, que se détache momentanément l'immémorial qui repousse, c'est ce qu'on trouve chez Hölderlin, c'est la notion d'aïon, le mot grec aïon qu'on trouve chez Hölderlin. Donc, sur ce fond d'immémorial qui repousse, se détache momentanément les différentes stromata, les broderies de l'art. Sur le fond de l'immémorial qui repousse, se détachent les broderies de l'art, ces rites d'illusion que l'homme tente pour échapper à sa finitude en toute connaissance, mais en toute aversion de celle-là. En toute connaissance de la finitude, mais en toute aversion, en toute haine de cette finitude. Mais nous y sommes liés malgré le processus de sublimation que suppose l'œuvre d'art. Ce n'est pas mon avis, c'est dans le contexte de la pensée de Baudelaire, n'est-ce pas, que je place des choses en ce moment. Je ne parle pas en tant que Steinmetz concernant l'œuvre d'art. Par ces remarques, on voit que, en dehors d'une perception classique du développement temporel, qui de l'écoulement héraclitéen passe à l'agression vorace, Baudelaire nous conduit à réfléchir sur le présent et à l'exister, lié à une forme de souvenir qui ne renvoie pas nécessairement à une stricte expérience individuelle. Le nostos, c'est-à-dire la nostalgie, le désir du retour, est évidemment révoqué par lui, mais non une forme de mélancolie, un instinct de mélancolie, adressant à ce que l'on pense être l'enfance. Tel est le domaine de réflexion négligé encore aujourd'hui à propos de Baudelaire et qui demande à être entièrement pensé, puis repensé. En un mot, je ne doute pas qu'il n'y ait à reconsidérer la naissance de l'œuvre d'art en ces termes, non contradictoires du reste avec le surgissement du nouveau, échappant à l'ordre de la répétition, mais qui ne peut être qu'un nouveau hybride. Le point essentiel réside vraisemblablement dans, et là je vais terminer par cette citation de Baudelaire, qui est très, très précieuse, n'est-ce pas, très, une extrême profondeur. Le point essentiel réside donc dans l'impression atmosphérique émise par les œuvres d'art. Donc Baudelaire s'attache à un moment à l'impression atmosphérique émise par les œuvres d'art. Baudelaire, en ce cas, nous parle de la lumière ou des ténèbres que ces œuvres déversent sur nos âmes, et il nous dit comment, à cette occasion, il a senti entrer en lui comme une vision de l'enfance de leur auteur. Ça veut dire d'imaginer ce que ça implique pour le critique, n'est-ce pas, et pour le lecteur. Donc, les œuvres d'art émettent, on ne va pas utiliser ce fameux mot d'aura, mais d'elles se dégage une impression atmosphérique, et cette impression atmosphérique renvoie à une vision de l'enfance de leur auteur. C'est d'une extraordinaire profondeur, n'est-ce pas ? Et je crois que cette phrase n'a pas été encore très observée, très explorée aujourd'hui. Donc voilà, j'ai à peu près dit ce que je vais dire, ce que je voulais dire, et vous voyez que la temporalité de Baudelaire, ben, ça n'est pas si simple, et ça nous mène vers un lieu assez peu exploré, n'est-ce pas, qui est celui de l'enfance de l'individu, celui de l'enfance de l'humanité, et ce surgissement de ce nouveau sur lequel se termine le poème du voyage, n'est-ce pas, le dernier poème. Je vous remercie de votre attention.
Merci, cher ami, pour cette très belle conférence. Merci pour cette très belle conférence avec, je crois être, avec laquelle je crois être essentiellement en accord. J'entendais pendant que vous parliez toujours cette phrase du peintre de la vie moderne sur l'enfant, le convalescent qui voit tout en nouveauté. Que vous n'avez pas cité, je crois.
Non.
Mais non. Mais qui.
Vous l'aviez cité auparavant.
Comment?
Vous l'aviez cité.
Je l'avais cité. Je l'ai cité aujourd'hui.
On en a parlé.
Oui. Qui correspond, à travers laquelle j'entendais votre propos. Cette faculté de voir en nouveauté, qui est celle de l'artiste, retrouvant cette vision de l'enfance que vous évoquez pour terminer.
Il y a un écrivain que contesté un peu aujourd'hui, mais que j'aime beaucoup, qui est Cocteau et qui donne une importance extraordinaire à la convalescence, oui, dans Les enfants terribles. C'est-à-dire que, et moi-même, j'ai eu cette expérience dans mon enfance, les maladies d'enfance, n'est-ce pas, dont on ressort, et puis il y a une longue convalescence, on a l'impression qu'on ressort du côté d'un autre côté, on est passé par un certain tunnel, et alors... Évidemment, on sent qu'on sort de l'enfance et on perd quelque chose du nouveau de l'enfance. Et pas quand, dans le peintre de la vie moderne et dans les paradis artificiels qu'on lit pas assez, on retrouve sans arrêt, on retrouve par deux fois cette notation qui n'est pas propre à Baudelaire d'ailleurs, mais dont il se sert à partir de Kinsey, c'est que l'art, c'est l'enfance ressongée. L'enfance reconstituée, la capacité d'émerveillement et de contact avec le nouveau, et que l'artiste adulte, avec des moyens propres, parvient à exprimer. Ce sens du nouveau, cette irruption de l'inconnu, c'est évidemment ce qui fascine Baudelaire, et ce qui va avoir d'ailleurs une grande importance dans l'art du XXe siècle,
oui,
dans notre époque aussi, avec toutes les dégradations que ça suppose, bien entendu, puisque nous sommes dans une période continuelle de désintégration, n'est-ce pas, de ce qui peut être conquis. Hein. Cela n'empêche pas que nous ressentons dans un climat de profonde mélancolie. C'était le premier titre de la nausée de Sartre, Mélancolia. Alors nous sommes mélancoliques parce que nous sommes loin de quelque chose, qu'un poète, l'un des derniers poètes qui a été capable d'exprimer ça, Théodore de Banville, a pu dire. Le poète, le dernier poète des minutes heureuses, le dernier poète de l'idylle peut-être. Heureusement, nous avons encore quelques poètes qui conçoivent ça aujourd'hui, comme Philippe Jacotet, mais ils se font rares parce que la dégradation avance.
Mais oui, je crois que vous aviez raison en disant que, en soutenant que ce qu'il est l'une des choses les plus profondes de cette conception baudelairienne de la modernité, c'est cette vision d'enfance. Quand on a enlevé le reste, cette faculté de voir en nouveauté. Reste un certain nombre de paradoxes qui sont que cette, quand vous parliez de la légende a dégagé du présent, C'est sans doute l'un des points sur lesquels j'en viendrai dans les séances suivantes. Une sorte de paradoxe que c'est la caricature qui le dégage le mieux.
Oui.
Cette estampille du temps. C'est dans la caricature que Baudelaire le trouve le mieux réalisé.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, là, il faudrait revoir tout ce qu'il a pu dire si important sur Goya et relier ce que Baudelaire dit sur Goya et ce que Malraux dit sur Goya, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une chaîne de réflexion qui demande à être pensée. Je n'ai pas beaucoup insisté sur la caricature parce que c'est une forme de dégradation artistique qui est essentiellement qui va provoquer le rire, n'est-ce pas ? Or, nous connaissons aussi le rapport de Baudelaire au rire, qui est très... C'est une marque satanique, mais en même temps, que va-t-on faire de la charité, n'est-ce pas ? La charité de Baudelaire est très, très singulière, n'est-ce pas ? Nous l'avons vu tout à l'heure. C'est la poésie et charité, c'est le poète se dévoue, n'est-ce pas, dans le monde moderne pour dire ce qu'il en est du monde moderne. Donc le spleen de Paris, d'après moi, c'est ça. Pas. Vous voyez ce que vous êtes. Vous voyez ce que vous êtes et la forme artistique que cela peut prendre. Ça ne veut pas dire que c'est la plus belle, d'ailleurs. Baudelaire procède là à un sacrifice absolument nécessaire dans notre société. Comme je le dis dans ma préface, Picasso ne fait peut-être pas les demoiselles d'Avignon de gaieté de cœur, n'est-ce pas ? Mais il doit procéder à cette défiguration. Parce que, sans doute aussi, il y a une défiguration de l'homme, n'est-ce pas ? Et l'homme, c'est pas l'homme éternel, justement. Il y a l'homme immémorial, il y a le côté immémorial, et puis il y a cette modernité. Cette modernité, d'ailleurs, qui retombe toujours du côté de... qui est de nouveau désintégrée par le temps. C'est ça qui va devenir, elle aussi, ancienne. Et c'est sûr que dans mon exposé, donc mon exposé a pu désarçonner quelques auditeurs, parce que j'ai été amené sans arrêt à parler de la temporalité de Baudelaire, et puis Baudelaire dans le temps, n'est-ce pas ? Dans le temps de l'histoire, et Baudelaire dans le temps de la métaphysique. Donc il y a son temps personnel qui compte peut-être moins que ce temps de l'histoire et ce temps métaphysique. On est évidemment assujetti à ces deux, trois formes d'expérience temporelle. Alors évidemment, quand on parle de Baudelaire et le temps, on voit le temps qui le ronge, et on voit par ailleurs les minutes heureuses et les quelques poèmes sur Mariette, la maison d'autrefois, etc. Mais il y a quelque chose de très certainement de beaucoup plus profond qui demanderait analytiquement à être poursuivi, qui s'est fait, qui a été scruté analytiquement, pas suffisamment. Et puis la psychanalyse, à partir d'un certain moment, recouvre la puissance de l'œuvre d'art par sa théorie même, n'est-ce pas ? Hein ? Donc le Mundus Muliebri, c'est extraordinairement efficace et revient d'ailleurs dans certains poèmes du spleen de Paris, où on voit des enfants, des poèmes d'évocation, par exemple. Ce qui veut dire que il y a une expérience propre de l'enfance chez Baudelaire, mais ce qui me trouble le plus, c'est que quand il parle de l'œuvre d'art, il semble dire que l'œuvre d'art émet une sorte de présence ou de signifiance et qui renverrait à quelque chose de fondamentalement natif, pas naïf, mais natif, natal chez l'artiste, n'est-ce pas ? Et donc, le poème Les Phares, que je n'ai pas évoqué, est une illustration extraordinaire. Quand il parle de Vinci, quand il parle de Goya, c'est pas... Et chacun des quatrains concernant ces artistes-là nous propose l'impression atmosphérique. Impression atmosphérique qui, évidemment, il a le trajet du temps à l'intérieur d'un individu et le rapport inou, au nouveau. Et ce rapport au nouveau, bien sûr, suppose aussi des contradictions, comme Baudelaire. On ne peut pas parler de Baudelaire, c'est l'homme des contradictions. Donc, il ne va pas nous montrer l'enfant naïf. J'ai cité, bien sûr, les enfants qui sont toujours en affrontement dans le gâteau ou dans l'évocation, toujours ça. Mais il y a ce rapport au nouveau, n'est-ce pas, qui est presque aussi beau que l'édénique. Simplement, l'édénique est sans mouvement, et nous savons à quel point, pour Baudelaire, le mouvement compte. Alors, le surgissement du nouveau nous adresse un clin, n'est-ce pas, par lequel semble passer une certaine vérité qui arrache au taedium vitae, à l'ennui de l'existence.
À propos de ces impressions atmosphériques que vous évoquiez, je pensais à ce passage du salon de 1859 sur les boudins, qui sont l'intérêt de Baudelaire pour ces esquisses rapides qui sont datées, marquées du temps qui passe.
Mais ce n'est pas simplement ce paysage, n'est-ce pas ? Oui. On rejoint là ce que disait Proust, oui, que vous connaissez si bien, et ce mot de climat. Oui. L'œuvre, une heure comme ça, une heure n'est pas simplement une heure, mais c'est un vase chargé de parfums, de couleurs, de climat.
Oui, c'est ce qu'on a dans cette fascination pour ces esquisses de Boudin.
C'est ça. Oui, Boudin, Proust.
Oui, on rejoint.
Il y a une cohérence.
Oui. C'est ce qu'il trouve dans ses marines, et c'est ce qu'il cherche chez Kiss dans la ville.
Oui. Et bien alors, le poème Confiteur de l'artiste nous montre bien qu'il y a un moment, il n'est pas question de restituer la beauté immédiate. Là, l'artiste est vaincu devant la nature. Le geste de l'artiste, j'en ai pas parlé, c'est arrêté. Le geste de l'artiste est un geste mnémonique. C'est-à-dire, l'artiste, c'est pas celui qui plante sa toile devant un paysage ou ceci ou cela. C'est quelqu'un qui vit un certain moment et après est capable de restituer très vite et sous une forme abréviative et hiéroglyphique ce qu'il a vécu.
C'est ce qu'il disait de Whistler. Je citais Whistler tout à l'heure, c'était improvisation et inspiration. C'est toujours cette peinture mnémonique.
Mais mnémonique, ça ne veut pas dire, évidemment, ça n'a rien du regret romantique. Coucher de soleil romantique, regret. Non. Baudelaire n'est pas dans le nostos. Mais par ailleurs, il éprouve fortement la mélancolie du temps moderne qui fait que nous sommes loin de quelque chose de fondamental, qui peut être relié à la mer, d'ailleurs, sûrement. La mer, le monde douce mouillé brise. Mais c'est peut-être trop simple de donner une solution aussi forte.
Bien, nous vous remercions pour ce très bel exposé.